Cher Emmanuel, merci pour les coquelicots qui, avec la perspective d'un cabinet de curiosité, ont ravivé un questionnement un peu vagabond et suscité ces quelques notes sur l'anecdote. Livre après livre, certaines anecdotes reviennent. Leur retour ne cause aucun ennui, aucun agacement. Jamais je ne les saute. Ceci doit indiquer quelque chose sur leur nature ou leur fonction, mais quoi exactement ? 1. Privé. Anecdote est empruntée par le latin anecdotes au titre grec d'un ouvrage de Procope, anecdota, c'est-à-dire chose inédite. L'anecdote, c'est donc étymologiquement ce qui n'a pas été publié ou produit au dehors. L'anecdote relève du privé, ou comme tu dis dans Mahé, écrire comme ça à la première personne sans sortir de chez lui. 2. Concept. Si un outil me manque, écris-tu dans Mahé à nouveau, si un outil me manque pour opérer une connexion, je vais puiser dans le coffre à jouets, un objet privé avec lequel je fabriquerai le concept dont j'ai besoin. C'est ce que David Antin appelle « penser par l'exemple ». À l'issue du talk qu'il a donné le 17 juin dernier à Paris, Antin résumait ainsi la supériorité du récit et de l'image sur le concept. S'il est toujours possible de déduire le concept de l'image ou de tirer une abstraction de l'anecdote, l'inverse n'est pas vrai. Impossible de remonter vers un réel à partir d'une généralité. Il a aussi ajouté, si j'ai bien entendu, que Wittgenstein ne semblait pas pleinement conscient que c'était là la raison de son recours au cas. 3. Contre la phrase, contre la chronologie. Penser par anecdote est une tentative d'échapper à la logique discursive, à la phrase, sa grammaire et ses mots d'ordre. La connexion remplace la causalité. Dans les dernières nouvelles de l'expédition, tu écris « L'histoire de Spurius Melus, anecdote sans âge, transmise indépendamment des annales, devait traîner dans les milieux populaires vers la fin du IIe siècle. Mais lorsqu'on se mit à écrire l'histoire chronologique, il s'est posé le problème d'accrocher cette légende errante à quelque chose de fixe. » De même qu'elle contrarie l'enchaînement causal, l'anecdote échappe à la chronologie. 4. Persistance. Comment l'anecdote résiste-t-elle à la généralisation ? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas tendance, occurrence après occurrence, à s'émousser, à se resserrer pour finir, par commodité, en concept nominalisé ? Je pense ici à ce que dit Antin dans Duration sur la réduction des souvenirs au fil du temps. Mais tout souvenir n'est pas apte à produire une anecdote. Il y faut, au départ, quelque chose de l'intransigeance butée du réel. 5. Images. Il faut d'abord une image ayant fait forte impression et si profondément gravée qu'elle fait échec au récit. Il semble que celui-ci soit condamné à rester en deçà. De fait, l'information que contient une image est inépuisable par le récit. Dans les coquelicots, tu écris « Reprendre les mots, en garder certains et sacrifier ceux qui encombrent inutilement l'échiquier, pour les mettre en mouvement, les faire jouer entre eux, les placer dans des situations qui les amènent, mais sans forcer, à mettre en évidence des contenus implicites ou des connotations imprévisibles, à éclairer des associations jusque-là cachées. Pour autant, je ne lis pas chaque nouveau récit d'une anecdote comme une tentative de mieux rendre l'impression, d'approcher l'image au plus près. La formulation est assez définitive dès la première occurrence. D'ailleurs, les occurrences ultérieures sont souvent des autocitations ou copies. 6. Secret. Dans Mahé, je lis « Les pures anecdotes restent des secrets. Cela veut dire « je n'en sais rien moi-même ». Dans Le narrateur, Walter Benjamin écrit ceci. Le premier narrateur grec fut Hérodote. Au chapitre 14 du troisième livre de ses histoires, il y a un récit riche en enseignements. Il traite de Psaménite. Lorsque le roi d'Égypte Psaménite eut été battu et fait prisonnier par le roi des Perses, Cambyse, celui-ci résolut d'humilier le prisonnier. Il donna l'ordre de placer Psaménite sur la route par laquelle devait passer le cortège triomphal perse. En outre, il s'arrangea pour que le prisonnier vît passer sa fille devenue servante, en train de chercher de l'eau à la fontaine dans une cruche. Alors que tous les Égyptiens se plaignaient et se lamentaient, Psaménite seul demeura muet et impassible, les yeux fixés à terre. Et comme il vit peu après son fils que l'on emmenait au supplice avec le cortège, il ne se départit pas de son impassibilité. Mais ensuite, lorsqu'il reconnut dans les rangs des prisonniers l'un de ses serviteurs, un misérable vieillard, alors il se battit les tempes, des poings et donna tous les signes de la plus profonde affliction. Et Benjamin commente « Ce récit nous fait voir ce qu'il en est de la véritable narration. Elle ne se livre pas, ni ne s'épuise jamais entièrement. Elle conserve ses forces concentrées, et longtemps après sa naissance, elle reste capable d'éclosion. » Hérodote ne donne pas d'explication. Son récit est le plus sec de tous. C'est pourquoi cette histoire de l'Antique Égypte est capable, encore après des milliers d'années, d'exciter l'étonnement et la réflexion. Elle fait penser à ces grains de semences enfermés pendant des milliers d'années à l'abri de l'air dans des caveaux des pyramides qui ont conservé jusqu'à ce jour leur pouvoir germinatif.